Chapitre 48. Le crachin commença dès que Zed et les deux femmes sortirent de l'enclos. Richard était déjà parti et il était impossible de déterminer combien d'avance il avait déjà pris. Kara voulait galoper ventre à terre pour le rattraper. Mais le vieux sorcier, gardant la tête froide, lui rappela qu'il savait où il allait. À quoi bon risquer qu'un des chevaux se casse une jambe ? Si ça arrivait, l'un d'eux devrait marcher jusqu'au cimetière, puis retourner à pied à la forteresse, des heures d'efforts inutiles. « De toute façon, conclut Zed, nous ne le rattraperions pas. »« Vous avez peut-être raison, admit la mort de Sith en talonnant sa monture, mais je ne veux pas le laisser seul trop longtemps. N'oubliez pas que je suis sa protectrice. »« Surtout depuis qu'il n'a plus son épée, marmonna Zed. » Nietzsche et lui durent se résigner à suivre le train d'enfer imposé par Kara. Quand ils atteignirent la cité, la lumière du jour déclinait nettement et le crachin menaçait de virer à l'averse. Nietzsche comprit qu'il serait trempé jusqu'aux os avant la fin de cette aventure, mais c'était impossible à éviter. Par bonheur, il faisait assez chaud pour qu'il ne risque pas d'attraper la mort. Les trois cavaliers foncèrent directement au palais des inquisitrices. Dès qu'ils arrivèrent dans le complexe, ils repérèrent le cheval de Richard, attaché à une chaîne tendue entre deux colonnes de granit. Zed et les deux femmes attachèrent leur monture à côté de celle du sourcier, puis ils enjambèrent la chaîne qui délimitait sans doute une zone privée des jardins. Alors qu'ils avançaient, cette impression se confirma. Les étrangers n'étaient pas les bienvenus ici. Le cimetière était protégé des regards indiscrets par un cercle de grands ormes et une haie de genévriers. À travers l'épais rideau de végétation, Nietzsche aperçut les murs de marbre blanc du palais qui brillaient encore à la lumière du crépuscule. Sans doute parce qu'il était dissimulé, Nietzsche s'attendait à un minuscule cimetière. En réalité, il n'était pas si petit que ça, mais les grands arbres intelligemment disposés découpaient l'espace de façon à donner une impression d'intimité aux visiteurs. Venant du palais, un chemin semé de gravillons et bordé de colonnes couvertes de lierre serpentait dans les jardins. À l'évidence, on avait prévu de limiter l'accès de ces lieux aux résidents du complexe, qui devaient pour cela franchir une élégante porte vitrée à deux battants. À cette heure de la journée, la lumière grise conférait à l'endroit un halo de calme et de sérénité. Zed et ses compagnes retrouvèrent Richard dans un petit carré de terrain délimité par une haie. Debout devant une grande stèle, le sourcier laissait courir ses doigts le long des lettres gravées dans le marbre. Des lettres qui composaient un prénom. Callan. Richard avait déniché quelque part des pelles et des pioches qu'il avait posées à ses pieds. Regardant autour d'elle, Nietzsche repéra des cabanes de jardin qui devaient servir à entreposer les outils. En toute logique, ce devait être là que son ami avait déniché les siens. En approchant, l'ancienne maîtresse de la mort songea que Richard était sur le point de vivre une expérience dévastatrice. N'osant pas le déranger, elle se campa derrière lui et attendit qu'il ait fini de caresser le prénom sculpté dans la pierre.
« Richard !»
se décida-t-elle à souffler après un long moment.
« Quoi qu'il arrive, pense à tout ce que je t'ai dit et n'oublie surtout pas que nous sommes tous là pour t'aider. Même si les choses ne se passent pas comme tu l'espères, tu ne seras pas seul, mon ami. »
Le sourcier se retourna lentement. « Ne t'inquiète pas pour moi, Nietzsche. Il n'y a rien dans cette tombe. Callan n'est pas ici. » « Je vais vous le prouver, et après vous serez bien obligé de me croire. Quand vous aurez compris que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde, nous nous lancerons tous ensemble à la recherche de ma femme, et je finirai par récupérer ma vie. En tout cas, je l'espère. »
Richard soutint un moment le regard de Nietzsche, comme s'il la défiait de le contredire. Puis il ramassa une pelle et commença de creuser le sol à l'endroit où aurait dû reposer la mère inquisitrice. À la lueur des deux lanternes que le sourcier avait dû trouver en même temps que les outils, le vieux sorcier et les deux femmes s'assirent sur un banc de pierre et regardèrent la scène en silence. Sous le ciel plombé et avec le brouillard qui se levait, la lumière des lanternes préservait un îlot de clarté dans ce qui serait bientôt un océan de ténèbres. La nuit à venir, la première de la nouvelle lune, serait d'un noir d'encre, et avec la couverture nuageuse, il ne faudrait pas compter sur la lueur des étoiles pour améliorer les choses. Même s'il avait fait plus clair et plus beau, exhumer un cadavre restait une horrible expérience. Voyant son seigneur creuser avec une rage à peine contrôlée, Kara finit par se lever et s'emparer d'une pelle.
« Plus vite nous en aurons terminé, mieux ce sera »,
lâcha-t-elle en guise d'explication. Sous le regard morne de Zed, la mort de Sith se mit à jouer les terrassiers avec le maître de l'Empire d'Aran.
Nietzsche leur aurait bien donné un coup de main, mais elle estima qu'une troisième personne risquait surtout de gêner les deux autres, attendu la chiche surface à retourner. Quant à utiliser la magie, elle préférait s'en abstenir en présence de Zed, qui aurait pu lancer un sort encore plus facilement qu'elle. Mais il devait vouloir que son petit-fils aille au bout de ses fantaisies, à la force des poignets et à la sueur de son front. Alors que la nuit tombait, le sorcier et la mort de Sith s'attaquèrent à une couche de terre très humide où s'entrecroisaient de grosses racines qui ralentissaient considérablement leur progression. La présence de ces racines, songea Nietzsche, indiquait que la sépulture était assez ancienne, bien plus en tout cas que le supposait Richard. Mais s'il s'en était avisé, il se garda bien de le mentionner. S'agissait-il vraiment d'un cénotaphe? La présence de ces végétaux militait en ce sens, sauf si on avait creusé entre eux un trou assez petit pour laisser passer une urne, une possibilité qui ramenait à l'hypothèse d'une crémation. Alors que le tas de pierres au bord du trou devenait de plus en plus haut, Nietzsche étudia cette possibilité et la rejeta après une très courte réflexion. À l'expression sinistre du premier sorcier, la magicienne devina qu'exhumer une mère inquisitrice lui déplaisait hautement, même si c'était pour une bonne cause. À l'évidence, le vieil homme bouillait d'envie d'asséner quelques vérités bien senties à son petit-fils. Bref, Richard ne perdait rien pour attendre, et le sermon qui le guettait ne ferait sûrement rien pour lui remonter le moral, une fois qu'il aurait découvert la déprimante vérité au sujet de ses fantasmes. Alors que la tête du sourcier disparaissait presque dans le trou, tant il était profond, sa pelle heurta soudain ce qui semblait être un objet en pierre ou en métal. Richard et Kara cessèrent de creuser. Selon le petit-fils de Zed, la tombe n'aurait rien dû contenir, à part une urne éventuellement, et on ne voyait pas pourquoi celle-ci aurait été enterrée si profondément. « Ce doit être une urne, » dit Richard à son grand-père.
« Tu n'aurais pas simplement jeté des cendres dans un trou. Au funérailles, il fallait bien utiliser un réceptacle pour les cendres censées être celles de Kalan. »
Zed ne répondit pas. Kara regarda un long moment son seigneur, puis elle plongea sa pelle dans le sol. Il y eut un nouveau bruit métallique. La mort de Sith écarta une mèche de cheveux blonds de son front et leva les yeux vers Nietzsche.
« Eh bien... « On dirait que vous avez découvert quelque chose, » dit enfin le vieux sorcier. « Il serait judicieux de voir ce que c'est. »
Richard jeta un bref coup d'œil à son grand-père, puis il recommença à creuser. En quelques minutes, Kara et lui eurent déterré un long objet rectangulaire. Même s'il faisait trop sombre pour bien voir, Nietzsche sut immédiatement de quoi il s'agissait. La vérité n'était plus bien loin. Et le glas sonnait pour les illusions de Richard.
Je ne comprends pas,
murmura le sorcier, déconcerté par la taille de l'objet qu'il venait de découvrir.
Enlevez la terre autour du couvercle,
ordonna Zed d'une voix qui trahissait son malaise. Richard et Kara dégagèrent les flancs de ce qui était de toute évidence un cercueil. Quand ils eurent terminé, Zed exigea qu'il sorte du trou, puis il passa les mains au-dessus de la tombe ouverte, paume vers le sol. Lorsqu'il les orienta vers le ciel, le lourd cercueil s'arracha à sa gangue de terre et lévita dans l'air nocturne. Zed s'écarta un peu du trou et, sans effort, le fit voler jusqu'à un carré d'herbe, puis le déposa dessus en douceur. Délicatement sculpté, la bière plaquée d'argent était d'une beauté poignante. Mais Richard la regardait comme si un démon risquait d'en sortir.
« Ouvre ce cercueil !»
ordonna Zed.
Son petit-fils ne réagit pas.
« Ouvre ce cercueil !»
répéta le vieil homme. Richard s'agenouilla et utilisa le bout de sa pelle pour soulever délicatement le couvercle. Kara ramassa les deux lanternes, en tendit une à Zed et leva l'autre au maximum pour que son seigneur puisse voir ce qu'il faisait. Après quelques secondes d'effort, le couvercle se désolidarisa du reste du cercueil et le sourcier le fit glisser sur le côté. La lumière de la lanterne se refléta sur les os blanchis d'un squelette. Grâce à la parfaite étanchéité du cercueil, le cadavre s'était décomposé selon le processus naturel, mais il n'avait pas moisi ensuite, se desséchant au fil du temps. Tenant encore au crâne par miracle, de longs cheveux tombaient sur ses épaules. Il restait peu de chair, à part sur les mains, entre les doigts. Très longtemps après la mort de leur propriétaire, ses doigts serraient toujours un bouquet de fleurs, elles aussi desséchées. La mère inquisitrice défunte portait une longue robe blanche très stricte qui avait jadis dû briller comme du satin. Les tiges du bouquet étaient enveloppées dans une longueur de dentelle vaporeuse tenue par un ruban doré sur lequel figurait une inscription en lettres d'argent. « Mère inquisitrice vénérée, tu resteras à jamais dans nos cœurs, Kalan Amnel. » Après cela, comment douter du sort de cette mère inquisitrice? De toute évidence, ce que Richard prenait pour ses souvenirs n'était qu'un tissu d'illusions et de mensonges, et désormais il n'avait plus aucun moyen de fuir la réalité. Pour l'instant, comme frappé par la foudre, il ne pouvait détourner le regard de la morte allongée pour l'éternité dans sa longue robe blanche. Nietzsche eut la nausée.
« Tu es satisfait, mon garçon ?»
demanda Zed d'une voix qui tremblait un peu, de colère probablement.
« Je ne comprends pas, »
murmura Richard.
« Vraiment, pourtant ça paraît clair comme de l'eau de roche.
Je sais que Kalan n'est pas enterré ici. C'est inexplicable. Comment peut-il exister une telle contradiction de la vérité ?»
Zed croisa les mains sur son giron.
« Ne cherche pas à analyser une contradiction. C'est du temps perdu parce qu'il n'en existe pas. Peut-être, mais... tu veux connaître la 9e leçon du sorcier? La voici. Dans la réalité, il n'existe pas de contradiction, qu'elle soit partielle ou totale. Croire à une contradiction, c'est cesser de reconnaître l'existence même du monde environnant et de tout ce qu'il contient. Afin de se persuader qu'une chose est réelle, parce qu'on a envie qu'il en soit ainsi, cela revient à adopter un processus de pensée qui subordonne l'intelligence à tout ce qui peut stimuler les fantaisies et les fantasmes. Une chose est une chose et rien de plus. Les contradictions sont tout simplement impossibles. Mais Zed, je dois croire que... Croire, dis-tu? Parce que la découverte de ce cercueil et du cadavre qu'il contient a dévasté tes rêves, tu entends te réfugier dans la foi la plus aveugle qui soit? Dois-je comprendre que tu pratiques désormais le déni de réalité? Eh bien, dans le cas présent, La foi est un instrument d'autosuggestion, mon garçon. Un tour de passe-passe fumeux, fondé sur des émotions et des songes éveillés, le feu d'artifice de l'irrationnel. Une méprisable tentative de faire plier le réel sous le joug du souhait enfantin de modeler le monde selon des désirs égoïstes. Pour faire plus simple, disons que c'est le piteux désir de donner vie à des mensonges, afin de parer la réalité des beaux atours de l'imagination. La foi, mon garçon, c'est le refuge des crétins et le fonds de commerce de ceux qui les manipulent. Aucun être humain intelligent ne devrait s'enivrer de cette liqueur à deux sous. Les contradictions n'existent pas, c'est clair et net. Pour ne pas voir cette vérité en face, tu devras renoncer à ta lucidité, soit à ton bien le plus précieux. Et au bout du compte, tu paieras de ta vie cette abdication, car dans ces affaires-là, le joueur perd toujours l'intégralité de sa mise. »
Richard passa les doigts dans ses cheveux humides et soupira.
« Zed, quelque chose cloche. Je ne sais pas quoi, mais je suis sûr de mon fait. Il faut que tu m'aides.
Et qu'ai-je fait jusque-là, selon toi ? Je t'ai permis de nous montrer une preuve, et nous l'avons sous les yeux. Une femme allongée dans un cercueil. Je sais que cette réalité est moins plaisante que celle dont tu rêvais, mais il n'y a rien à faire. Tu as trouvé ce que tu cherchais, Richard. Voici la dépouille de Callan Amnell, comme nous l'indiquait la stèle depuis le début. »
Un sourcil levé, le vieil homme se pencha vers son petit-fils.
« Sauf si tu nous prouves qu'il s'agit d'une machination, un plan démoniaque visant à te faire passer pour un fou aux yeux de tous, il semble bien que tu aies eu tort depuis le début, sorcier. Si j'étais toi, je ne chercherais pas une nouvelle explication fumeuse. Cesse enfin de te voiler la face, et devant la preuve de ton erreur, admets une bonne fois pour toutes qu'il n'existe pas de contradiction. »
Richard regarda un long moment le cadavre en robe blanche.
« Quelque chose ne va pas. Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. »
Zed serra les mâchoires pour ne pas crier de rage.
« Richard !»
siffla-t-il.
« J'ai déjà fait montre envers toi de beaucoup trop d'indulgence. Maintenant, dis-moi pourquoi tu n'as pas ton arme. Fiche très foutre ! Où as-tu laissé l'épée de vérité ? »
Tandis que son grand-père attendait une réponse, Richard continuait à sonder les profondeurs du cercueil. Il consentit pourtant à répondre.
« J'ai donné mon arme à Shota, en échange d'informations précieuses pour moi. »«
Quoi ? »
explosa Zed.
« Il le fallait, voilà tout. »
« C'est tout ce que tu trouves à dire ?»«
Oui. »«
Et quelles informations voulais-tu glaner ?»«
Tout ce qui pouvait m'aider à comprendre cette affaire et à retrouver Callan. Désormais, c'est la sauvée qui importe pour moi, avant tout le reste. »
Furieux, Zed braqua un index squelettique sur le cercueil.
« Regarde, c'est le cadavre de Callan Amnell, enterré à l'endroit exact où se dresse sa pierre tombale. » « Après t'avoir délesté de ton arme, quels autres tuyaux crevés t'a donc refilé Shota ?»
Richard ne tenta même pas de rappeler qu'il avait remis de son plein gré l'épée à Shota.
« La chaîne de flammes, »
dit-il, résolu à ne pas baisser les bras.
« Shota m'a transmis ce nom, mais elle ignore son sens. Elle a ajouté que je devais trouver l'endroit où sont les ossements dans le profond néant. »«
Le profond néant !»
répéta Zed avec un rire grinçant.
« De mieux en mieux, vraiment. Bien entendu, cette maudite voyante n'a pas été fichue de te dire ce qu'était son profond néant de malheur. »
« Elle l'ignore, mais elle a ajouté que je devais me méfier de la vipère à quatre têtes. »
« Attends, laisse-moi deviner. Tu ne sais pas plus que moi ce que ça veut dire, pas vrai ?»
Cette fois, Richard se contenta de secouer la tête.
« C'est ça ? Le trésor que tu as obtenu en échange de l'épée de vérité ? Des charades à la noix ?
Il y avait autre chose, »
ajouta Richard après une brève hésitation. Il murmurait plus qu'il parlait, sa voix presque couverte par le bruit pourtant discret de la pluie.
« Shota a dit que ce que je cherchais depuis longtemps enterré. »
Zed eut visiblement beaucoup de mal à ne pas exploser.
« Eh bien, voilà qui a le mérite d'être clair. »
Il désigna le cercueil.
« Callan Amnell, la mère inquisitrice inhumée depuis très longtemps. »
Richard baissa piteusement la tête.
« Et tu as sacrifié une arme d'une incroyable valeur pour avoir le droit d'exhumer un cadavre ? Tu nous prives d'une épée fabriquée par les sorciers de l'ancien temps et destinée à une poignée d'élus ? Une lame que je t'ai remise en personne. Et tu oses la donner à une voyante. As-tu idée de ce que j'ai dû endurer pour reprendre l'épée à Shota, la dernière fois qu'elle l'avait en sa possession ?
Richard ne leva pas les yeux et ne répondit pas.
Nietzsche s'en étonna, car elle savait qu'il ne manquait pas d'arguments pour se défendre. Il avait agi honnêtement, en fonction de ce qu'il croyait juste, mais il omettait de le rappeler, même quand Zed lui en donnait l'occasion. Comme un petit garçon, le sourcier se laissait sermonner par son grand-père.
« Je t'ai confié une arme précieuse et très dangereuse, car elle peut aussi servir le mal lorsqu'elle tombe entre de mauvaises mains. Richard, tu m'as abandonné. Tu nous as tous abandonnés pour te lancer à la poursuite d'un rêve. Regarde, ton songe est ici, enterré depuis longtemps. J'espère pour toi que tu es satisfait. Moi, en revanche, je bous de colère. »
Debout près du cercueil, sa lanterne à la main, Kara semblait avoir envie de défendre Richard, mais sans parvenir à trouver que dire. Tout comme la mort de Sith, Nietzsche n'osait pas intervenir. Pour l'instant, tout ce que les deux femmes pouvaient avancer risquait d'aggraver les choses. Un long moment, on n'entendit plus que le bruit de la pluie s'écrasant sur les feuilles des arbres.
« Zed, » dit enfin Richard. « Je suis désolé. »«
Tes regrets n'arracheront pas l'arme à Shota. Ils ne sauveront pas les malheureux que Samuel tuera avec. Richard, je t'aime depuis toujours comme un fils, et je continuerai. Mais c'est la première fois que tu me déçois. Je n'aurais jamais cru que tu puisses te comporter si stupidement. »
Une nouvelle fois, le sourcier acquiesça timidement. Nietzsche en eut le cœur serré pour lui.
« À présent, »
conclut Zed,
« je vais te laisser remettre en terre la mère inquisitrice, et pendant que tu accompliras cette mission à ta portée, je réfléchirai au meilleur moyen de subtiliser l'épée à une voyante qui s'est montrée bien plus maligne que mon petit-fils. Si toute cette histoire tourne mal, Richard, tu devras assumer tes responsabilités, et elles seront écrasantes. »
Le sourcier déchu hocha encore la tête.
« Parfait. Je me réjouis que tu sois encore capable de comprendre des choses si compliquées. »
Zed braqua sur Nietzsche et Kara son regard désormais aussi intimidant que celui d'Eral.
« Vous deux, vous allez retourner à la forteresse avec moi. Je veux tout savoir au sujet de cette bête, jusqu'au moindre détail. »
« Je dois rester éveillé sur le seigneur Ral, » dit Kara.
« Pas question. Toi, tu me raconteras tout ce qui s'est passé avec Shota. « Je veux me faire répéter chaque mot qu'elle a prononcé. »« Zed, je ne... »«
Fais ce qu'il demande, Kara, » dit Richard. « Je t'en prie. »
Nietzsche comprenait très bien ce qu'éprouvait Richard face à son grand-père. Alors qu'il pouvait se défendre, il en était incapable, comme elle jadis lorsque sa mère lui faisait des remontrances. Un seul mot de cette femme et elle se décomposait, persuadée que ses actes et ses choix ne pouvaient pas être les bons. Même en vieillissant, elle était restée sans défense devant la personne qui l'avait élevée. Après des années passées au palais des prophètes, il suffisait encore d'un regard maternel pour qu'elle ait le sentiment d'avoir de nouveau 10 ans. Si la magicienne n'avait jamais vraiment aimé sa mère, Richard adorait et respectait son grand-père, des sentiments qui lui compliquaient encore les choses. Malgré tous les exploits qu'il avait accomplis, malgré sa force, ses connaissances, ses aptitudes et son pouvoir, il ne pouvait supporter l'idée d'avoir déçu Zed. Et puisqu'il l'aimait, sa souffrance était encore plus terrible.
« Viens, »
dit Nietzsche à Kara en lui tapotant gentiment le dos.
« Pour une fois, fais ce que Richard te dit. Être un peu seul lui permettra de réfléchir à tout ça et de recouvrer ses esprits. »
La mort de Sith réfléchit quelques instants et se rendit à l'évidence, la magicienne avait raison.
« Quant à toi, »
dit Zed à Nietzsche,
« tu me décriras ton rôle dans tout ça. Si je dispose des éléments idoines, je pourrais peut-être réparer certains dégâts et riposter aux attaques magiques de Jagang. »«
Allez chercher les chevaux, »
soupira Nietzsche.
« Je vous suivrai sans protester. »
Zed jeta un bref coup d'œil à Richard, hocha la tête et s'éloigna en compagnie de Kara.
Nietzsche approcha de Richard, toujours accroupi près du cercueil, et lui posa une main sur l'épaule.
« Ne t'inquiète pas, mon ami, tout ira bien. »
« Je me demande si quoi que ce soit ira de nouveau bien un jour. »«
C'est difficile à imaginer ce soir, mais tout s'arrangera. »
Z oubliera sa colère et finira par comprendre que tu as agi en ton âme et conscience.
Il t'aime, et il n'avait pas l'intention de te blesser à ce point, j'en suis certaine.
Richard ne répondit pas et ne détourna pas non plus le regard du cadavre de Callan Amnell, une très ancienne morte qu'il avait cru être sa bien-aimée.
« Nietzsche,
souffla-t-il après un long moment, tu voudrais bien m'aider ?»«
Bien entendu, Richard. »
« Accepterais-tu d'être une dernière fois la maîtresse de la mort ?»«
Pour moi. »
Nietzsche se leva, des larmes roulant sur ses joues en même temps que les gouttes de pluie. Par miracle, elle réussit à répondre d'une voix qui ne tremblait pas.
« Désolé, mais c'est impossible, Richard. » Tu m'as trop bien appris à aimer la vie.